Bon dimanche à tous. Je vous salue nos amis suisses. Que Dieu vous bénisse. J'ai reçu des belles photos de Marguerite. Elle est dans des paysages du Valais. C'est vraiment très beau, hein, le Valais. C'est vraiment très beau. On prie aussi pour notre frère Samuel qui était méchamment piqué par une guêpe. Que Dieu le bénisse. Il a tout le côté du visage enflé. Que Dieu le bénisse. Amen. On est content pour Lucas, qui va bien. Sur 150 personnes à qui j'ai écrit au sujet de Lucas, il n'y a qu'une personne qui m'a dit une méchanceté, je ne vous dirai pas qui, mais ça m'a vraiment, vraiment fait de la peine qu'il y ait des gens comme ça qui peuvent être méchants. Enfin, que voulez-vous ? Vois-tu, c'est comme ça. Il faut regarder les 149 autres qui ont dit du bien, qui ont dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Hein? Amen. Voilà, c'est comme ça. Que voulez-vous faire? Et puis tant pis pour les autres. Voilà, on va lire Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Alors, juste avant, Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et les catholiques pensent que l'Église est construite sur Pierre. C'est pas vrai du tout. Jésus lui dit « Tu es Pierre, mais sur ce rocher, c'est autre chose, le rocher de la révélation. » La révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, sur cette révélation, je bâtirai, je construirai mon Église. Voilà ce que ça veut dire. Puis si vous voulez pas le croire, tant pis pour vous, restez comme vous êtes content dans votre Église, c'est bien. Bon, nous, on va plus loin, on va étudier ce matin. C'est vrai que les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre l'Église que Jésus construit. Par contre, les portes de l'enfer, c'est-à-dire du séjour des morts, ont du pouvoir contre les églises construites par les hommes. Et ça, il y en a une flopée. On va voir ça tout à l'heure. Je pense que vous êtes tous au courant des scandales qui se produisent dans les églises. Il n'y en a pas une pour racheter l'autre. C'est épouvantable. Mais la vraie Église de Jésus-Christ, construite par Jésus-Christ sur sa parole, sur ce qu'il dit, la vraie Église construite par Jésus-Christ selon la parole de Dieu, la Bible, sur la révélation de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a dit, eh bien cette Église, elle peut être attaquée. Hein, vous pouvez pas empêcher les gens de venir taper à votre porte. Et voilà. Mais le diable, les gens, les démons, ne l'emporteront pas sur elle, même s'ils arrivent à rentrer. Vous vous rendez compte qu'il y a un texte même qui dit qu'il y en a qui rentreront au paradis. Au paradis. Et quand Jésus les verra, il dit, mais vous faites quoi là? Ils sont pas habillés correctement, c'est-à-dire ils ont pas la robe blanche, ils sont pas rentrés par la porte, Jésus est la porte, ils sont rentrés par une fenêtre, ils sont pas rentrés par la porte, dehors! Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. D'où Jésus, excusez-moi, mais il est très exigeant. On peut pas faire comme on veut. Mes frères et sœurs, si nous agissons comme les apôtres, eh bien nous obtiendrons les mêmes résultats qu'eux. Lisons Actes chapitre... tiens, je crois que j'avais noté Actes chapitre 2. Et... Ben non, je n'ai pas noté Actes chapitre 2. Tiens, c'est bizarre. D'habitude, je mets toujours des petits papiers collants pour me retrouver facilement, afin de ne pas vous faire patienter trop longtemps. Actes chapitre 2, je vous le trouve, voilà, versets 38 à 47. Pierre leur dit, c'était des gens, Pierre venait leur prêcher l'évangile, et ils ont dit, mais frère, il faut faire quoi? Alors Pierre leur dit, changez d'attitude ou repentez-vous dans les anciennes versions. Là maintenant, dans les nouvelles versions, repentez-vous, ça ne veut plus rien dire parce que vous avez des gens qui se repentent, hein. Ils vont dans le confessionnal, ils se repentent et puis ils continuent. Non, là, je trouve que c'est bien, changez d'attitude. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rend des témoignages et les encourage en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, donc au temple juif de Jérusalem, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Voilà, ça c'est le modèle de l'Église tel que Jésus l'a construit. Voilà l'Église que Jésus construit. Tout ce qui ne ressemble pas à ça n'est pas de Jésus, c'est de l'imitation. Si elle ne ressemble pas à ça, les portes du séjour des morts ont un pouvoir contre elle. Il y a un label d'origine. C'est ce que dit la Bible, c'est ça le label. Un label, c'est une marque qui garantit l'origine et la qualité. Voilà ce que c'est qu'un label. Eh bien, le label d'origine, c'est ce que dit la Bible. Si votre religion dit d'autres choses, eh ben, voilà, elle n'a pas le label. C'est, pardon, hein, mais c'est comme le gruyère français, il n'y a pas le, voilà, c'est pas du gruyère suisse. Il y a déjà rien qu'au goût, on s'en aperçoit, rien qu'au trou, on s'en aperçoit, voilà, il n'y a pas le label. C'est du fromage, mais c'est pas du gruyère suisse. Ben, l'Église, c'est la même chose. Si c'est pas basé sur les Saintes Écritures, ben, il y a des trous partout. Y a des... Qu'est-ce que le label d'origine de l'Église que Jésus construit? Eh bien, c'est ce que Paul dit dans Romains, chapitre 15, versets 18 et 19. Voilà ce que Paul dit. Versets 18 et 19. On commence verset 17. « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour ramener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance du Saint-Esprit. J'oserais jamais me prétendre pasteur d'une personne qui a été emmenée à Jésus par quelqu'un d'autre. » C'est l'apôtre Paul dit. Il a mené des non-juifs à l'obéissance par la parole de Dieu, c'est-à-dire par les écritures qui existaient à l'époque, et par les actes, c'est-à-dire par sa façon d'agir, par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire par les miracles. Eh bien, c'est ce que je fais depuis 1968. Et Paul disait une chose terrible, il disait « Je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi. » Verset 18. « Est-ce que je me vante des âmes gagnées par frère Raphaël Duval le Gitan ?» Non. Est-ce que je me vante des miracles et des conversions faites par la, le frère Théon Osborne. Non, j'en parle parce que je suis fier d'eux, mais c'est pas mes brebis, c'est pas moi qui les ai amenés à Dieu, je m'en vante pas, c'est pas moi qui fais le boulot, c'est pas moi qui me suis sacrifié pour faire ce qu'ils ont fait. Et l'apôtre Paul dit, ben moi non plus, je me vanterai jamais de quelque chose que j'ai pas fait. Qui ose se dire pasteur des gens que j'ai emmenés à Jésus-Christ? Ce sont des imposteurs. Ce sont des arrogants qui osent mentionner des choses qu'ils n'ont pas faites. Mais ils ne se sont pas gênés pour les voler. Mais alors, attendez, je vais expliquer. Paul n'a jamais osé faire ça. Pourquoi ? Parce que Paul travaillait dans l'église que Jésus construisait, et non dans des divisions humaines, dans des dénominations humaines, dans des clubs chrétiens, comme je dis. Ils appellent ça des églises, mais ce n'est pas des églises. L'église, c'est ce qu'on vient de lire là. Ils vendaient leurs biens, ils mettaient au pied des apôtres, ils mettaient tout en commun, il n'y avait pas de pauvres parmi eux, parce que ils partageaient tout entre eux, ils prenaient leur repas, ils prenaient la Sainte Cène pendant les repas, ils persévéraient dans la prière, enfin bon, tout ce que je vous ai lu là. L'esprit qui était répandu le jour de la Pentecôte est un esprit de reproduction de vie. Si l'Esprit de Dieu a commencé une chose, il la continue toujours la même chose, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Les religions changent. Les apôtres n'étaient pas des gens extraordinaires, mais ils étaient des gens ordinaires qui travaillaient avec Jésus, qui lui construisait son Église. Il construit toujours son Église avec des gens ordinaires. Quelle est la mission d'un envoyé de Dieu qui travaille à la construction de l'Église de Jésus-Christ? Eh bien, il fait ce que l'Esprit de Jésus-Christ lui dit de faire. Il ne va pas piller les églises pour en faire une nouvelle dont il serait les petits chefs. Non. Qu'est-ce que l'Esprit dit de faire? Qu'est-ce que l'Esprit dit à ses serviteurs? Il dit... Attention, ça va vous choquer. Il dit, va piller l'enfer, va piller le séjour des morts et peuple le ciel à cause de la croix du calvaire. Les gens du dehors, vous les voyez, ils vivent, ils font leurs courses, leurs machins, tout ça, ils sont morts dans leurs péchés. Jésus nous dit, va piller le séjour des morts, va piller ces endroits-là, là où sont les pécheurs. Va pas piller les églises, va pas faire des divisions dans les églises pour te faire le chef d'un petit groupe. Et ça, c'est ce que nous faisons avec le plus grand plaisir, parce que nous avons un pouvoir contre les portes du séjour des morts, c'est-à-dire contre les portes qui retiennent les gens dans la mort spirituelle. Ils sont morts spirituellement, ils sont séparés de la vie, ils sont séparés de Dieu, ils sont dans leur péché. Et Jésus nous dit, allez piller le séjour des morts. C'est magnifique. Maintenant, une question. Est-ce que l'Église primitive n'a jamais eu d'imposteur qui soit entré en elle? Oui, il y en a eu. Mais il ne restait pas parce qu'il ne le pouvait pas. On va dire psaume 1, verset 5. Psaume 1, verset 5. En effet, l'Éternel... non, c'est pas ça, c'est le verset 5. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et puis, on peut lire aussi 1 Jean, chapitre 2, verset 19. 1 Jean 2, verset 18, d'abord. 18... 1 Jean 2. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair qu'ils ne sont pas des nôtres. Est-ce que vous comprenez bien ce qui est dit là? Donc, le séjour des morts essaye de franchir les portes de l'Église que Jésus construit. Vous lirez aussi Matthieu 22, 9 à 14, pour voir qu'il y en a même qui réussissent, ils sont tellement marioles, ils réussissent à rentrer dans le paradis, mais pas longtemps, hein. Jésus les fiche dehors. Jésus les fiche dehors. Mais ils ne résistent pas. Ils peuvent entrer, mais ils ne résistent pas. Ils sortent. Comme par exemple Ananias et Saphira. Eux, c'est les premiers qui sont sortis, mais alors par la grande porte. Hein. Paf, ils sont morts. Ou comme Alexandre le Forgeron. Tiens, on va lire Alexandre le Forgeron. 2 Timothée 4, 14. 2 Timothée 4, 14. 2 Timothée 4, 14. C'est Paul qui dit Alexandre le Forgeron. Vous voyez, il ne se gêne pas pour dire les noms, hein, l'apôtre Paul. Alexandre le Forgeron, il précise bien, parce qu'il y a plusieurs Alexandres, mais il précise bien lequel. Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui. Dans d'autres versions, c'est marqué « Garde-toi de lui ». Garde-toi de lui. Mais de nos jours, les Alexandres, les gens des églises humaines, invitent, sont invités, ces Alexandres-là, ils sont invités parce qu'ils donnent de l'argent. Oui, c'est formidable. C'est merveilleux. Ça ne nous regarde pas, mais je suis obligé d'enseigner les Écritures. Donc j'enseigne les Écritures. Je ne peux pas vous enseigner que toujours la même chose, que Jésus vous aime, qu'il est mort à la croix pour vous. Je dois aussi approfondir un peu pour que vous connaissiez ce que c'est que les fondements de l'Église que Jésus construit, comment il l'a construit, quelles sont les conditions. Nous, on ne fait pas ça. On ne veut pas de loups dans notre bergerie, dans l'église que Jésus construit. En fait, de temps en temps, s'il y en a un qui rentre, il reste pas longtemps. Nous allons chercher les perdus. Nous allons chercher ceux qui sont derrière les portes du séjour des morts, c'est-à-dire ces gens qu'on voit traîner dans les rues partout et qui sont morts dans leurs péchés, qui sont séparés de Dieu à cause de leurs transgressions. L'ordre de Jésus est « Va piller le séjour des morts pour peupler le ciel. » C'est magnifique. Tous ces pauvres gens qui sont morts dans leurs péchés, nous les conduisons à Jésus-Christ. Et c'est ce que je fais par Internet, beaucoup en ce moment, lors de mes voyages missionnaires, depuis tant d'années, 70 pays, je ne sais même pas combien de personnes... J'étais un grand pilleur. J'ai fait du pillage dans le séjour des morts. Ouais. Et Jésus dit, ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Ceux qui ne me reçoivent pas, ne reçoivent pas Jésus. Voilà. Combien de fois j'ai vu la puissance dévastatrice du choc de l'Évangile frapper les portes du séjour des morts et les détruire. Plein de fois. J'ai vu des gens se tourner vers Jésus, venir à la vie, sortir des ténèbres, se convertir, devenir des nouvelles personnes. J'allais et je vais toujours à l'assaut du territoire des ténèbres de Satan. C'est un truc qui me plaît. C'est Osborne qui m'a donné ce virus-là. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous savez que frère Osborne est décédé? Alors tout de suite, j'ai téléphoné à Osborne, il me dit, non, frère, je suis pas décédé, pas encore. Je suis là encore pendant quelques années pour embêter le diable, pauvre diable. Et c'est également ce que nous faisons lorsque nous pratiquons 1 Corinthiens 15, 29, mais je vais pas rentrer là-dedans, à vous de chercher, à vous de comprendre, si vous avez des oreilles, un cœur et un cerveau. Mais qui pratique ça? Qui pratique 1 Corinthiens 15, 29? votre Église pratique-t-elle 1 Corinthiens 15, 29 ou est-ce qu'elle a trouvé une pirouette pour éviter de le faire? Les filles de Babylone ne font pas ça. Car Babylone, la grande prostituée, a des filles. Vous savez que la Bible parle d'une église qu'elle appelle la grande prostituée. Et toutes les églises qui sont construites selon le modèle humain, c'est-à-dire pyramidal, avec un pape en haut, ou un conseil d'administration, ou que sais-je, des grands dirigeants, prophètes, machin, patin, couffin, ça c'est le système de la grande Babylone. On va lire Apocalypse 17, 1, 6, pour que vous sachiez que ce que je vous dis, c'est pas du pipeau, hein. Apocalypse 17, 1, 6. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint me parler et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité et du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. » Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, qui avait sept têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées. Pas des pauvres femmes que vous voyez sur le trottoir. Non, non, pas ça. Je vais vous expliquer. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Ivre du sang des saints. Mes ancêtres ont été massacrés par la grande Babylone. Ils habitaient Grenoble. Ils ont été envoyés pour les uns aux galères parce qu'ils étaient devenus protestants. Les autres ont été égorgés, tués, brûlés. Et quelques-uns ont réussi à fuir en Suisse et ont été recueillis dans le merveilleux village de Saint-Saphorin. Que Dieu bénisse cette commune qui a reçu la famille Genton. Cette église, la grande prostituée, est ivre du sang des saints. Ivre. Faut-elle qu'elle en ait bu? Apocalypse 17, 1. Je vous lis. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes va me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Un des sept anges qui tenait les coupes remplies de la colère de Dieu invite maintenant Jean à regarder le jugement de la grande prostituée. Le chapitre 17 de l'Apocalypse est consacré à la description et au jugement de cette femme immorale. C'est un symbole, cette femme. C'est pas une femme, c'est un symbole. Voilà. Qui est cette grande prostituée? Le verset 5 nous répond, « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » La grande prostituée se nomme Babylone la grande. Il s'agit de la grande ville qui est détruite en Apocalypse 16, 19, vous irez lire, après avoir bu la coupe de vin de l'ardente colère de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va faire mourir, va détruire cette église. C'est prochainement, vous allez le voir, boum, ça va sauter, ça va être détruit, mais quelque chose de... Déjà maintenant, ça se fissure pas mal, hein, mais là, ça va être détruit. Elle fait référence, la Grande Babylone, à l'antique Babylone, dont les croyances religieuses se sont répandues sur toute la surface de la terre. Cette ville prestigieuse a également subi la colère de Dieu, humiliant ainsi tous les faux dieux, les idoles, les prêtres, les astrologues, les magiciens. C'est écrit. Dans Jérémie 50, versets 1 à 3, « Voici la parole prononcée par l'Éternel à l'intention de Babylone, à l'intention du pays des Babyloniens par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Annoncez-le parmi les nations, proclamez-le, dressez un étendard, proclamez-le, ne cachez rien. » C'est pourquoi je parle. Ne cachez rien. Babylone, elle est prise. Babylone est couverte de honte. Mérodac est brisé. Ses idoles sont couvertes de honte. Ses statues sont brisées. En effet, une nation est venue du nord et montée pour l'attaquer. Elle transformera son pays en sujet de consternation. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes seront décampés. Ils auront pris le large. Le prophète Ésaïe, au chapitre 47, 11-13, nous dit « Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondra sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. » Les prophètes, vous savez, qui prophétisent « Michel Chanton va mourir au mois de septembre 2015 » des âneries comme ça, les devins. Et qui se présentent donc et qu'ils te sauvent, ces spécialistes du ciel. Ceux qui observent les astres, qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver, hein, les astrologues. Vous n'avez pas un journal sans qu'il y ait une page consacrée à l'astrologie. Les gens disent tous « Oh, moi, je lis pas. » Tu parles. C'est la première chose qu'ils lisent. Vous vous liez. Vous êtes dans les ténèbres quand vous faites ça. Elle est assise sur des grandes eaux. Alors, les grandes eaux, on a vu ça auparavant, que la mer représente les nombreux peuples, les nations, les tribus, les foules, les langues, les masses agitées des humains, dont les gouvernements tirent leur origine. Ça rejoint totalement l'explication qu'en donne l'ange à Jean au verset 15. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Cette grande prostituée, cette grande église, elle est assise partout. Partout. Vous allez n'importe où, elle est là. Elle a ses ministres partout. Hein? Ah. On peut dire que les grandes eaux représentent la population dominée sous influence et qui apporte leur soutien à la grande prostituée, la fausse religion. Alors, le conflit cartodécimane, c'est un mot un peu compliqué, vous irez regarder dans nos dictionnaires, entre les évêques est définitivement réglé au concile de Nicée en l'an 325. Vous voyez que c'est vieux, en 325. Quelqu'un m'a écrit l'autre jour parce que on parlait au sujet, je parlais justement au sujet de mes ancêtres qui ont été massacrés. Il me disait, mais vous avez encore de la rancœur après tous ces siècles passés? Alors j'ai posé la question, bon, il n'y a pas des siècles que ça s'est passé, mais par exemple Jim Jones qui a obligé ses fidèles à se suicider en buvant du cyanure, vous feriez partir de son église? C'est une question de temps. Vous pourriez faire partie de cette église parce que bon, ben moi non. Non, je peux pas. Une église qui fait ça, je peux pas. Je peux pas. En 325, à cette occasion, la lettre synodale établie par les évêques réunis et une encyclique établie par l'empereur Constantin impose aux chrétiens d'Asie de ne plus célébrer de Pâques le même jour que les Juifs, mais de la célébrer à l'avenir comme les Romains. Voilà pourquoi on ne célèbre plus Pâques le jour où les Juifs célèbrent Pâques, mais à une autre date. Pas nous. Puis on met pas des petits œufs de Pâques, puis on met pas des lapins de Pâques, puis on croit pas que les cloches elles s'envolent à Rome, puis on croit pas toutes ces âneries. On proteste. Constantin, peu intéressé par les questions théologiques et avant tout soucieux de maintenir l'unité de l'Empire romain, réussit à fusionner les différentes croyances païennes et chrétiennes, opérant un véritable syncrétisme religieux afin de favoriser la Pax Romana, la paix de l'Empire romain. Les empereurs romains ont donc joué un rôle déterminant dans l'adoption de fausses doctrines par les chrétiens, comme par exemple la doctrine de la Trinité à partir de 325. Si vous ne croyez pas dans la Trinité, vous êtes excommunié, vous êtes envoyé en enfer. Vous le savez ça ? La vérité divine a été sacrifiée sur l'autel des puissances politiques de ce monde qui, pour assurer leur grandeur, n'ont pas hésité à faire des compromis, introduisant ainsi l'apostasie dans l'enseignement du Christ. Ils vont tous embrasser la bague du Saint-Père en jupette et dentelle. J'en connais que deux qui ne l'ont pas fait, parmi les grands. C'est William Branham et Osborne. Ils n'ont pas été. Malheureusement, cette façon de faire, elle perdurera tout au long de l'histoire, l'enseignement chrétien s'éloignant de plus en plus de celui de Jésus-Christ. Citons d'autres fausses doctrines, par exemple le culte des saints, vers 375. La Sainte Vierge, Mère de Dieu, en 491. Le purgatoire inventé par cette église en 593. Le culte des images et des reliques en 788. L'eau bénite en 850 après Jésus-Christ. L'infaillibilité de l'église en 1076. L'infaillibilité de l'église. La vente des indulgences, alors c'est ça qu'a fichu Martin Luther, le réformateur en colère, la vente des indulgences, vous savez que ça existe toujours, 10 euros pour faire l'adultère, 30 euros pour tuer quelqu'un, voilà, vous payez puis vous êtes sauvé, alors que Jésus a payé le prix pour que nous puissions être sauvés non par de l'or et de l'argent, mais par son sang précieux. Eux, ils vendent des indulgences. Pourquoi ils font ça? Ben parce que c'est pour ramasser du pognon. Vendre des indulgences en 1190. Le dogme de la transsubstantation, c'est ce que c'est? C'est le pain et le vin qui est tout d'un coup transformé sous les mains bénites du prêtre plus ou moins pédophile. Ça a été inventé en 1215, la doctrine, le dogme de la transsubstantiation. Il y a des gens qui croient ça, hein. On leur dit, il ne faut pas croquer parce que sinon vous avez le sang de Jésus qui vous coule dans la bouche. L'infaillibilité du pape, c'est pas vieux, ça date de 1870. Avant il était faillible, maintenant il est plus faillible, il est infaillible. C'est intelligent, hein? La religion et la politique vont marcher main dans la main pour acquérir plus de pouvoir et de richesse. Ils verseront ensemble le sang innocent en plongeant des populations dans des guerres de religion, des croisades, en persécutant tous ceux qui osent penser autrement ou croire autre chose. Par exemple, si vous voulez être baptisé par immersion, alors qu'eux ils disent que 3 gouttes d'eau ça suffit, vous êtes un hérétique. Maintenant, ils ne vous tuent plus. Mais il n'y a pas longtemps, c'était le bûcher. C'est la raison pour laquelle, dans l'Apocalypse, la religion nommée Babylone la Grande, en référence au berceau des fausses croyances, est représentée par une prostituée chevauchant une bête sauvage. Les puissances politiques de ce monde et tenant une coupe remplie du sang des saints, c'est-à-dire des enfants de Dieu. On peut donc, pour résumer, associer la couleur écarlate de la bête d'Apocalypse 17 à la guerre, hein, rouge écarlate, tout ça, à la violence, à la destruction, au sang versé, au péché, au diable, etc. La fausse religion, et en particulier la chrétienté, qui prétend servir Dieu et Jésus, commet l'adultère spirituel avec les puissances politiques qui incarnent la présence de Satan sur terre. C'est-à-dire, ce sont les filles de la grande prostituée. Ils sont sortis de leur mère. mais ils font exactement la même chose. Ils ont le même système. Si vous connaissez la puissance de l'Évangile, vous ne vous inquiéteriez pas. Jésus est de taille à répondre aux besoins. Le monde est malade et Jésus possède le remède. Le remède, c'est l'Évangile. L'Évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est le salut pour quiconque croit. C'est le remède. Notre responsabilité à nous, à nous autres chrétiens, c'est tout simplement d'apporter le médicament aux patients, c'est-à-dire à ceux qui sont encore morts dans leur péché, de leur faire connaître l'Évangile. Jésus dit, allez, prêchez la bonne parole. C'est pas une suggestion. C'est pas une recommandation. C'est un ordre. Et notre message, c'est Jésus. Ce qu'il fait prouve ce qu'il est. Si votre message est simplement blablabla, 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 il ne se passe rien, c'est du blabla de plus. Jésus doit pouvoir se manifester en faisant des guérisons, en faisant des miracles, en faisant des choses extraordinaires qui prouvent que ce que vous dites est vrai. Jésus, ce qu'il fait prouve ce qu'il est. Il est Dieu. Il est le sauveur, il est le divin guérisseur. Et il n'y a pas besoin de faire la morale aux gens. On n'a pas besoin de leur décrire leurs péchés. Ils savent très très bien ce que c'est leur péché. À quoi s'attendent les gens? Les gens ont besoin de remporter la victoire sur ce qui les obsède, sur ce qui les possède. Ils ont besoin de remporter la victoire sur leurs péchés, de se sentir purifiés, de se sentir pardonnés, de se sentir aimés, respectés par Dieu. Et nous devons nous attacher à montrer aux gens comment se sortir du bourbier dans lequel ils se trouvent, dans leurs transgressions et toutes ces sortes de choses. Il suffit de leur dire que c'est par le sang de Jésus versé à la croix qu'ils peuvent être délivrés de leur vaine manière de vivre que leur ont enseigné et montré leurs ancêtres. Amen et Amen. Dieu vous bénisse. Ma prédication est un petit peu sèche aujourd'hui, mais il fallait que je le dise parce qu'on approche de la fin. Vous voyez ce qui se passe dehors, c'est pas rigolo. Mais ma prédication n'a pas besoin d'être rigolote non plus. Elle doit dire la vérité. Je vous ai dit la vérité. Maintenant vous savez. Que Dieu vous bénisse. Faites. C'est pas une option, c'est un ordre. Faites la volonté de Dieu. Amen. Au revoir.